Vous écoutez
RMC.
On file tout de suite à Brest. Brest-Nantes, résultat important des Messins pour les Nantais. Et le coup d'envoi vient d'être donné, Pierre-Yves Leroux.
Quel timing, tout est bien organisé, Thibaut.
Bravo. C'est la LFP, c'est la Ligue de football professionnel.
Et ici, il y avait un petit peu de brouillard à cause des fumigènes. Donc, Monsieur Turpin a décidé d'attendre un petit peu pour donner le coup d'envoi. Ça correspond juste à la fin de match, effectivement, du côté de Metz. Alors, Roland, tu te demandais si les Nantais étaient informés. Sans doute pas de tout ce qui s'est passé sur la fin de match, mais ils savent très certainement qu'il y a un bon coup à jouer, ouais, effectivement, ce soir, ici à Brest, mais que c'est pas gagné quand même.
Ouais. On va rappeler les compos dans un instant. Je ferai également un point classement, parce que là, on est sur la 32e journée, on est vraiment sur la toute fin du sprint final, et chaque point a son importance. Bah, on a le temps de rappeler les compos, les gars.
On va commencer par Brest.
Avec Marco Bizot dans les cages, aucune surprise dans la compo brestoise. La défense de la gauche vers la droite avec Loco, Brassier, Chardonnay, Lala. Les trois milieux de terrain, Lesmelou, Camara et Magnetti. Et le trio d'attaque, Satriano, Mounier et Del Castillo.
Et du côté nantais, on est bien sur une défense à 5 avec 3 hommes en défense centrale, Palois, Castelletto et Chemert. On va surveiller la montée de Del Castillo sur le côté droit, le petit centre, la tête de Palois, justement, cette défense centrale des Canaries qui se dégage sur les côtés, Coco à droite et du côté gauche, l'ancien Brestois, Jean-Kévin Duverne. En milieu de terrain, on retrouve Moutoussami et Sissoko, et puis devant, une ligne de 3 avec Abline, Traoré, et dans l'axe Kadewere justement, qui va pouvoir peut-être récupérer ce ballon. À la lutte avec Chardonnay, c'est Brendan Chardonnay qui a le dernier mot, et les Brestois qui vont récupérer ce ballon. 0-0, 2 minutes de jeu ici du côté du Stade Francis Le.
Il est 21h03, vous êtes sur RMC, c'est l'After Live pour la 32e journée des Ligue 1 avec coach Courbis. On fait une petite pause. Dans un instant, on entre pleinement dans ce Brest-Nantes. On fera également un point complet sur le classement après les nombreux résultats du jour. Ne changez rien, tout se passe ici sur RMC. Il y aura aussi le foot étranger. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec coach Courbis pour la 32e journée de Ligue 1 et beaucoup de matchs aujourd'hui. Le direct, c'est le Stade Francis Leblay d'un côté, la Ligue des Champions de l'autre, le maintien. Pierre-Yves Leroux et Edgar Grelot.
0-0 toujours après 5 minutes ici à Leblay. Edgar, dans une ambiance un petit peu à la fois humide et chaleureuse, hein, c'est ce qu'on peut dire.
Oui, avec
surtout la Bretagne.
C'est ça. Avec surtout un champ, hein, qui prédomine, on sent que ça depuis le début du match. Stade Brestois, Coupe d'Europe. Voilà, il y a même un drapeau européen derrière les cages. Bon, je vais pas vous le chanter, hein, je voudrais pas vous faire mal aux oreilles.
Stade Brestois,
mais,
Coupe d'Europe.
Exactement.
Brestois,
voilà, tu chantes mieux que moi.
Ah, c'est sur l'hymne. Ok.
Ouais, exactement.
Ok, très bien.
J'ai pas le nom de la chanson en tête. Attention, à peut-être suivre cette action quand même.
Ouais, avec Camara à l'entrée de la surface de réparation qui va écarter sur le côté gauche. Il va avoir du soutien avec Loco qui va pouvoir centrer. On se jette du côté de Castelletto pour effectuer la tête. Pierre Lesmelou et qui va reprendre sa baguette de chef d'orchestre, écarté sur Del Castillo sur le côté droit, le petit centre, mais une nouvelle fois il n'y a pas loin pour couper la route du ballon, ce centre de Satriano qui ne va pas trouver de camarade démarqué du côté brestois. Et puis donc cette ambiance avec ce stade à nouveau plein, Edgar.
Ouais, 7 guichets fermés consécutifs, 15 000 personnes à peu près au stade. Le parquage nantais est fermé puisque les supporters ont été sanctionnés pour un usage d'engins pyrotechniques au Havre à la 29e journée, mais Brest a pu vendre donc 500 places dans ce parquage à des supporters brestois. Donc vraiment un stade plein à craquer ce soir
dans une tribune tubulaire, mais qui ne peut pas servir pour la Ligue des Champions. Elle peut servir pour
Non, et d'ailleurs, on n'y sera pas ce soir. Parce que autant Monaco, ouais, en s'imposant tout à l'heure contre Clermont, a validé une place dans le top 4. Au pire, ce sera 4e et donc les tours de barrage de Ligue des Champions. Brest, voilà, peut s'en rapprocher en cas de victoire, mais il n'y aura rien encore d'officiel ce soir, quoi qu'il arrive.
Oui, ouais, Brest a un point d'avance sur Lille et 5 points d'avance sur Nice. Et on le rappelle, avec la nouvelle formule, les 3 premières places sont directement qualificatives pour Ligue des Champions et la 4e envoie l'équipe en barrage.
On peut quand même envisager, même si c'est pas mathématique, on peut quand même envisager que Brest sera dans les cartes.
D'autant plus, Roland, quand on regarde, on en parlait ce matin, le calendrier, avec une réception de Reims la semaine prochaine et un déplacement à Toulouse, ça semble abordable pour prendre encore quelques points pour les Brestois.
Oui, absolument. Et là, pour le match de ce soir, je pense qu'on va assister à un match où les deux équipes vont vouloir gagner, ce qui est le cas. Et cette équipe de Nantes est allé à Brest avec un potentiel offensif. On va voir si ça a été une bonne idée ou pas, mais je pense que oui.
À noter quand même que en cas d'exploit, en cas de victoire nantaise, attention l'offensive brestoise là.
Ouais, c'est récupéré avec Magnetti sur le côté gauche. Magnetti à la lutte avec un défenseur nantais. Il y aura finalement un centre signé Loco. La tête de Moutoussami, peut-être la reprise de Camara. Il a pas osé. Ouh, il y a une petite main. Non, elle était collée au corps, celle de Jean-Charles Castelletto. Je pense que il y a pas de souci au niveau de l'arbitrage de Monsieur Turpin et Ablin qui aurait pu passer la ligne médiane et se présenter. Pourquoi pas quelques secondes plus tard face à Marco Bizot, mais il est tombé sur le délire de Saint-Renan, Chardonnay qui est venu couper ce ballon et l'envoyer en touche. Et vous avez entendu les applaudissements évidemment des supporters ici à qui sont tous derrière leur équipe, mais plus particulièrement évidemment derrière leur capitaine qui est l'enfant du pays. Et ça compte forcément ici un petit peu à Brest, un petit peu plus évidemment. Kenny Lala qui récupère ce ballon et qui il y a quelques secondes avant le coup d'envoi est allé faire une accolade à Antoine Comboiré qui connaît bien certains joueurs brestois évidemment. Et puis on n'oublie pas que du côté nantais, Jean-Kévin Duverne lui aussi était passé par Brest. Attention à Camara qui va pouvoir à nouveau écarter sur Del Castillo. Jean-Kévin Duverne justement qui a failli faire la faute sur Del Castillo. La transmission, la frappe, elle est puissante, l'arrêt de la fond, magnifique frappe qui va finalement être détournée en corner par Alban Lafont. Elle était signée Brassier me semble-t-il et c'est détourné par Lafont. Elle était très puissante, hein.
magnifique tir, ouais, déjà dans son geste, son allure
bien équilibrée
et cette précision, donc là bravo Lafont.
Et ouais. Brest qui a parfois du mal sur les débuts de match ces derniers temps et là qui commence très très fort avec beaucoup d'intensité dès le début de ce match.
Avec le corner qui va être frappé par Del Castillo justement devant ce parquage d'habitude réservé aux supporters adverses. Le pied gauche, c'est au niveau du point de pénalty. Là, oh, c'est à nouveau une frappe qui est détournée cette fois par le postérieur d'un Brestois. Attention à Del Castillo dans la surface de réparation. Sissoko finalement qui va pouvoir dégager avec l'aide de Jean-Kévin Duverne. Deux actions chaudes consécutive pour les Brest. On va surveiller Ablin, l'homme en forme actuellement, ouais. Et Kenny Lala qui peut dégager ce ballon. Une touche à hauteur de la ligne médiane pour les Nantais à venir dans quelques instants.
C'est vrai que c'est un joueur intéressant.
Et coach, ça fait quand même deux actions consécutives où il y a un Brestois qui peut tirer quasiment seul devant la surface. Hein.
Ben oui, donc là, on a un Brest qui ressemble au Brest qu'on a pu voir depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est-à-dire il joue tous les coups. Ils ont aucun problème pour tirer au but à mi-distance, pour centrer. Non, c'est vraiment plaisant de les voir jouer.
Et on a revu le ralenti sur la frappe de Magnetti, c'est un Brestois malheureusement pour eux qui comptent.
Exactement, et coup franc à venir pour Brest dans sa moitié de terrain avec Kenny Lala qui va écarter justement sur celui qui s'est offert une belle occasion il y a quelques instants. Brassier, ballon récupéré par Magnetti qui revient sur Brendan Chardonnay, toujours sous ce crachin avec un petit vent à l'avantage des Brestois pour cette première période. Ça vient de l'ouest, ça vient de cette tribune des ultras brestois et des Celtics ultras qui poussent avec le vent derrière leur équipe. Long ballon devant vers Camara à la lutte avec Chamert. Attention à ce ballon de Palois vers Lafont, mais pas de souci pour le portier nantais qui va dégager. Sissoko voit son ballon récupéré par Pierre Lesmelou. Ça joue pas très bien là depuis quelques instants, c'est un peu brouillon.
Et c'était pas du tout un cadeau pour Lafont, hein, ce ballon en retrait avec des petits rebonds. Il a pas pris de risque Lafont, il a eu raison je pense coach sur cette action,
hein. Complètement. Mais je regarde ou alors je vois mal. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'eau quand même sur cette pelouse.
Oui, parce qu'il a plu toute la journée ou presque.
Bizarre ça.
C'est assez exceptionnel, mais résultat, elle est très verte, très belle. Mais c'est vrai qu'il y a quelques gerbes quand même d'eau quand les joueurs se jettent au sol.
Et là, et ils continuent à pleuvoir. Pour les gardiens, un tir à mi-distance qui en même temps frappe 4 ou 5 mètres avant d'arriver au gardien, ça peut poser des problèmes pour garder le ballon. Hein.
Tu es
obligé des fois de le repousser.
Oui, il va falloir surveiller ça peut être un piège ce soir.
Oui, et l'un des enseignements, j'ai l'impression, de ce début de match, c'est la formation de Nantes. On se demandait un petit peu comment ils allaient jouer. J'ai l'impression, Pierre-Yves, que ça joue à 5 derrière, hein, quand ils n'ont pas le ballon.
Ouais, c'est
avec donc Castelletto côté droit et Duverne côté gauche. Non, même Coco qui redescend en poste de piston à droite. Et donc 3 centraux derrière.
5, 2, 3 si tu veux, mais si les 3 attaquants de côté, notamment les 2 côté droit, côté gauche, reviennent un petit peu, tiens 5-4-1.
Voilà, c'est le rôle de Benny Traoré à droite et de Mathis Sabline qui font bien le boulot pour l'instant, effectivement, qui sont les premiers défenseurs de cette ligne. Kadewere restant dans l'axe pour essayer de gêner un petit peu les relances. Et on le voit bien là actuellement avec cette ligne de 4 juste derrière Kadewere, alors que les Brestois ont récupéré le ballon.
Le ballon, quand il se prend des passes, comme ça freine. Comme ça avec la mousse.
Ouais. Ouais, ouais, c'est mais effectivement, et puis cette pluie continue, donc ça risque de pas s'arranger.
Ça continue parce que nous on le voit pas bien ça.
Oui, parce que c'est un petit crachin, hein, ouais, mais ça imbibe bien la pelouse. Ouais.
C'est léger, mais ça s'arrête pas. Donc si c'est comme ça tout le match,
un crachiné,
c'est ça. Exactement.
Un petit crachin.
Voilà. Les Brestois qui, pour l'instant, sont tenus en échec sur leur terrain. 0-0 après 13 minutes ici à Le Blé, avec Del Castillo qui était sorti de l'espace de jeu et qui re-rentre pour récupérer ce ballon avec Brendan Chardonnay. On continue à s'observer un petit peu de chaque côté. Il y aura eu, dans ce premier quart d'heure, deux belles occasions pour les Brestois. Pas de danger pour Marco Bizot pour le moment. Brassier qui écarte la tête d'Ablin. Là, il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Nantais avec ce ballon de Kadewere qui va transmettre à Ablin, qui essaye de passer en vitesse, mais le double contre n'est pas favorable et ça oblige ce ballon à ça oblige surtout Mathis Ablin à voir ce ballon s'éloigner un petit peu trop et rejoindre directement les pieds de Marco Bizot, et ça relance rapidement. On essaye de donner du rythme dans cette partie, Edgar.
Oui, Kadewere qui a perdu un petit peu de temps avec son contrôle, hein, parce que là il était vraiment bien placé et il a permis quand même au bloc brestois de redescendre jusqu'à cette intervention de Chardonnay. Ça fait quand même déjà 2-3 tacles de Chardonnay sur ce côté-là face à Ablin où il doit intervenir.
Oui, on a compris que Mathis Ablin allait essayer de jouer avec ses capacités d'accélération pour essayer de tromper cette défense brestoise. Pour l'instant, il n'a pas réussi. Celui qui réussit bien pour le moment entre les deux lignes, c'est Del Castillo avec le centre de Camara directement pour les bras d'Alban Lafont. Del Castillo en pleine forme actuellement, encore buteur face à Rennes il y a quelques jours dans ce match exceptionnel. Et cette victoire 5-4 très importante, notamment pour rester dans les trois premières places.
Le temps, le score, messieurs, s'il vous plaît.
14 minutes exactement, on rentre dans la 15e, 0-0 à Le Blé entre Brest et Nantes.
C'est la 32e journée de Ligue 1 qui a vu Rennes il y a quelques minutes s'imposer à Metz 3-2 et Metz perdre Mikotadze, carton rouge, il sera suspendu au prochain match. Monaco a battu Clermont 4-1 et a assuré sa place dans le top 4, et Le Havre a réussi un gros coup en dominant Strasbourg 3-1. À l'étranger, c'est parti fort en Espagne, l'Atlético de Madrid mène déjà 1-0 à Majorque, but de Riquelme. Griezmann n'est pas là, il est suspendu. Et puis en Italie, l'Inter est mené à Sassuolo 1-0. Petite pause et on retourne à Le Blé pour la suite de ce Brest-Nantes avec coach Courbis. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec coach Courbis pour cette journée décisive, ce samedi important pour la Ligue 1. C'est la 32e journée qui continue ce soir à Brest. Francis Le Blé, Brest contre Nantes, Pierre-Yves Leroux, Edgar Gourlot.
Toujours 0-0, 18e minute et toujours un peu ce même scénario avec des Nantais qui essayent de jouer vite en contre avec notamment Mathis Ablin. Cette fois, il y aura un coup franc sur l'attaquant, le latéral gauche de cette équipe nantaise. C'est vraiment le schéma de ces premières minutes.
Exactement, ça se confirme aussi niveau stats avec 65% de possession de balle pour Brest après 17 minutes de jeu. Et les Nantais, vraiment, à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils se projettent le plus vite possible. On comprend peut-être mieux aussi la compo avec ce trio offensif très, très rapide, hein, plutôt avec Ablin, Kadewere, Traoré, même Coco, si on veut le mettre dans l'eau, qui se projette vraiment rapidement, et Brest qui essaie de faire le jeu pour l'instant.
Mais c'est vraiment la particularité des joueurs choisis par Antoine Comboiré, alors que on pouvait s'attendre à une composition avec les habituels Amian, Kotza, Chirivella, qui sont peut-être des joueurs moins rapides.
Mohamed,
exactement. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'opérer en contre. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné pour les Nantais. Ce sont les Brestois qui se sont créés les occasions les plus difficiles avec un Nicolas Palois qui se retrouve à faire les touches sur le côté. Alors ça, c'est assez surprenant parce que logiquement, c'est quand même pas à lui de les faire. C'est plutôt à Jean-Kévin Duverne qui récupère ce ballon. Résultat, le ballon est perdu. Attention pour les Nantais de ne pas être en difficulté derrière.
On vient d'assister à une intervention de M. Turpin, que je trouve une intervention très calme et très, très intelligente pour justement ne pas tomber tout de suite dans les sanctions, le carton. Donc il est allé discuter et je pense qu'il continue sur sa forme actuelle parce que je l'ai trouvé très très bon l'autre fois, oui, en Champions League.
Ouais, on rappelle son dernier match, c'était mardi, et c'était à Munich pour Bayern-Real.
C'est normal, il arbitre un futur européen.
Voilà, exactement. Peut-être qu'il arbitrera un Brest. Ah bah non, il pourra pas, mais. Non. Peut-être que Brest jouera le Bayern ou le Real l'année prochaine.
Voilà. Ouais. Voilà. Ou alors un Brest-PSG en finale l'année prochaine de Ligue
des Champions.
Rigolez pas parce que personne n'imaginait Brest à cette place-là.
Ah bah non.
Ça, mais là, bon, ça paraît quand même dur quand même de monter autant les échelons.
Mais qui sait
Clément Turpin. Clément Turpin qui a sifflé coup franc pour les Brestois et pour Kenny Lala. Un seul homme dans le mur, c'est Mathis Ablin, les supporters des Tizèf qui poussent derrière leur équipe. Le pied droit de Kenny Lala, l'ancien Strasbourgeois. Il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. Il y a aussi le policier Nicolas Palois avec sa tête. Ça sera une tête brestoise, mais ça passe au-dessus des buts gardés par Alban Lafonce Camara qui avait placé cette tête. Il a été le plus haut, me semble-t-il. Oui, c'est lui, effectivement, avec son numéro 45, même si Steve Mounier, le grand joueur de tête de cette équipe brestoise, était également pas très très loin, mais c'est bien lui qui a pris ce ballon qui passe au-dessus.
Et derrière, Pierre Lesmélou était complètement seul dans la surface. Hein, si le ballon est un petit peu plus long, c'est quand même surprenant de le voir aussi esselé comme ça, mais bon. Le ballon n'est pas arrivé jusque lui.
Nouvelle occasion pour les Brestois qui sont les plus dangereux dans cette première moitié de première période. On a passé la barre des 20 minutes, exactement la 21e minute maintenant. Comboiré, Antoine de son prénom, avec le pied sur le ballon pour
petit
remettre
contrôle quand même.
Et pour remettre à nouveau le ballon à Nicolas Palois qui donc effectue les touches côté gauche dans cette défense à 3, ce qui permet à Jean-Kévin Duverne d'apporter un petit peu plus de poids aussi devant pour essayer de récupérer le ballon. Mais là, le problème, c'est que Nicolas Palois, il n'est pas forcément habitué à jouer les touches. Et résultat, il n'a personne qui se propose. Et on commence à grogner. Ça y est, elle est faite, cette touche, elle est récupérée par.
Il va la donner à monsieur Turpin.
Oui, oui, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas. Moi, c'est pas pratique ce ballon. Moutou Samy pour Traoré. Tiens, il n'a pas touché beaucoup de ballons, hein, Traoré, mais il en a un là. Oh, la grosse faute. La grosse faute sur Coco qui venait rapidement sur le côté droit. Et ça sera le premier carton jaune de cette partie sortie par monsieur Turpin. Carton jaune mérité parce que le joueur brestois a été pris de vitesse.
Ouais, bah oui. Les locaux, il arrive vraiment en retard et il a pas enlevé son pied, on va dire, hein. Il sent qu'il est en retard et là, carton jaune complètement logique alors que Marcus Coco reste au sol et que le corps médical nantais entre sur la pelouse pour aller s'occuper de l'ailier nantais qui joue donc piston ce soir.
Ouais, qui va se relever, ça va aller pour Marcus Coco. Oui. L'avantage, c'est que la pelouse est souple. C'est pas fait mal.
Exactement.
Au moins, c'est déjà ça. Et coup franc à venir dans quelques instants.
Il a dû se tremper.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il fait un petit peu la grimace, mais ça a l'air d'aller quand même. Il devrait reprendre son poste dans quelques instants. Le coup franc qui va donc être joué, on le situe à 3 mètres environ de l'angle de la surface de réparation côté droit. Del Castillo et Magnetti vont être dans ce mur dans quelques instants. Monsieur Turpin qui leur demande évidemment de reculer. Sissoko qui va aller se placer à l'entrée de la surface de réparation. Marcus Coco, lui, qui va reprendre son poste. Et c'est Traoré qui va frapper ce coup franc dans la surface de réparation du côté nantais. On retrouve Nicolas Palois, on retrouve Kadewere, Castelletto, Schomert, Ablin, les grands sont là, et Sissoko,
beaucoup de monde,
Sissoko qui est présent également. Et il y a 4, 5, 6, 7 joueurs brestois, et il devrait même y en avoir 8 puisque tous les joueurs brestois sont dans la surface de réparation avec le mur. 8 et 2, 10 et 1 dans les buts. C'est Marco Bizot qui va essayer de repousser peut-être la plus dangereuse des offensives nantaises hein, depuis le début de match. 23e minute, 0-0. En tout cas, il y a la possibilité de se créer vraiment quelque chose de dangereux pour les Nantais. C'est parti pour le pied droit de Traoré. C'est plutôt bien frappé. C'est dégagé par Satriano. Nicolas Palois au deuxième poteau. La reprise de volet, c'est dégagé finalement par deux têtes brestoises. Même si les Nantais gardent la possession du ballon, ils vont retourner jusqu'à Alban Lafont.
Oui, Nicolas Palois qui reste quand même aux avant-postes. On va voir si le ballon revient assez vite. Mais finalement, il va pouvoir récupérer sa place dans la charnière à trois côtés nantais.
Sur l'action, on s'est quand même aperçu que Palois, c'était un défenseur plutôt.
Mais il a marqué des buts.
Je pense qu'elle était cadrée quand même la reprise
de temps en temps. Ouais.
C'est vrai, mais non, mais pour le jeu de tête, pas de problème. Mais là,
sur les reprises.
Le geste de la reprise en plus du pied droit, alors qu'il est gaucher,
Ah, c'est sûr que c'était pas du Nograne et des Grèces.
Moins équilibré que Brassier tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Qui pourtant est défenseur aussi. Les Brestois qui vont tranquillement récupérer cette balle. 24e minute. Et du côté des bancs, eh bien, on regarde, on observe. Eric Roy est assis, semble-t-il, à l'abri pour le moment. Kenny Lala avec Brendan Chardonnay. On construit du côté Brestois pour essayer de trouver la faille dans ce collectif nantais bien organisé qui est venu aussi pour prendre un point et ça se voit. Ouais. 0-0, 25e minute.
Alors, oui, un point classement concernant les Nantais parce que on le disait que la défaite de Metz tout à l'heure, Metz 16e barragiste, Nantes a 3 points d'avance et donc virtuellement 4 avec ce point du match nul. Coach, ils ont quand même intérêt à prendre au moins un point, voire plus aujourd'hui, parce que leur fin de saison, c'est Lille et Monaco, les Nantais.
Ah oui, non, le calendrier, ça fait peur, même si on peut envisager que Monaco, avec la victoire d'aujourd'hui et son prochain match, sera peut-être tranquille lors de cette 34e journée, mais on n'en est pas sûr.
Pierre-Yves Edgar.
Oui. Et pendant ce temps-là, il y aura par exemple un Metz PSG, si je ne me trompe pas.
Oui, la dernière journée, absolument.
Qui pourrait être aussi.
Ouais, mais bon, dans quelle situation sera le PSG? Quelle sera la composition d'équipe du PSG? On aura l'occasion
d'en reparler, d'en débattre. Oui. Brendan Chardonnay pour les Brestois, toujours 0-0, 26 minutes de jeu. Et au niveau de la météo, ça ne s'améliore pas. Hein. On ne voit plus la mer hein, maintenant du côté gauche. C'est toujours ce crachin, mais il est très épais quand même. Et il trempe bien les supporters, notamment de cette tribune derrière Alban Lafont. Tribune qui n'est pas couverte. Et en plus, c'est dans le sens du vent. Ça a été vendu pour les supporters brestois. Ils n'ont pas forcément eu trop de choix, évidemment. Mais là, ils sont bien trempés.
Ils ont sorti les parkas là. Hein. Tout le monde est couvert. J'en profite quand même, on n'a pas eu le temps de le dire encore. Nantes évidemment qui est en difficulté au niveau du classement, mais à l'extérieur c'est pas si mal, hein. 8e équipe de Ligue 1 cette saison, et surtout en 2024 4 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Donc ils sont plus à l'aise à l'extérieur. Ils ont même gagné deux fois plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Seulement 3 victoires à la Beaujoire cette saison.
Ouais. Alors, mais ce qui fait peur à la Beaujoire, c'est cette série de défaites là qui est une série unique dans toutes les années du Football Club de Nantes.
Ils en sont à 9, je crois.
8 ou 9, oui.
Avec la Coupe de France.
Il y a les jeunes de la Youth League qui ont gagné.
Ça paraît impossible.
Ça compte pas, Edgar.
C'est vrai que dans l'histoire du FC Nantes, ça fera tâche. Évidemment, cette série incroyable du côté de la Beaujoire. Et on se demande bien quand est-ce qu'elle va s'arrêter, parce que ça ne sera pas évident, évidemment, la semaine prochaine contre l'ogre lillois. Le dog lillois est toujours en course pour la Coupe d'Europe. Donc, ça sera peut-être pour la saison prochaine de revoir une victoire nantaise à la Beaujoire. Et pourtant, c'était une des missions d'Antoine Comboiré quand il est arrivé. Il faut regagner ici, du côté de la Beaujoire, parce que quand on est à la maison, c'est indispensable, surtout dans ce stade, un stade qui ne sera pas plein, hein, on le rappelle, pour le dernier match, puisque la tribune noire est à nouveau suspendue, et ça participe aussi du manque d'ambiance. Tiens, eh bien alors là, c'est une surprise, mais il y aura un changement du côté brestois.
Oui, effectivement, alors qu'on est à la 27e minute, et déjà un changement, c'est le numéro 28 brestois, c'est Jonas Martin qui va faire son entrée et va remplacer Pierre Lesmélo. Et ça, c'est une information importante. Pierre Lesmélo, le métronome de cette équipe qui était gêné toute la semaine à l'entraînement, il était touché à Rennes.
On a la réponse, donc il a fait un essai, ça allait mieux, on serre les dents et puis finalement on n'est pas rétabli.
Gros coup dur. Effectivement, Pierre Lesmélo qui rentre très applaudi, évidemment la déception, mais il fait signe que voilà, ça va pas suffisamment pour poursuivre. Il faut peut-être même s'économiser parce qu'il reste encore 2 matchs très importants et pour les Brestois. Donc voilà, c'est le choix qui est fait par Eric Roy après presque une demi-heure. C'était peut-être l'idée de se tester pendant 30 minutes. Ça n'a pas été concluant. Il va donc être remplacé. Il est remplacé puisque le jeu reprend à l'instant avec Brendan Chardonnay, la défense centrale brestoise avec Brassier. Brassier qui va repasser par Chardonnay, 28e minute. Mais c'est vrai que c'est un premier petit tournant dans l'effectif brestois. Attention à Palois qui va être pris de vitesse par Camara qui rentre dans la surface de réparation. Le centre de Camara, Lafont qui repousse avec ce ballon humide, on le disait tout à l'heure coach, il est obligé de repousser ce ballon sans la capter parce que sinon il prend peut-être trop de risques. Attention au contre des Nantais avec Sissoko, Sissoko qui va retrouver Coco qui vient de passer la ligne médiane. Est-ce que le bloc brestois a réussi à se réorganiser? Pas sûr. Le centre de Coco pour Abline, Abline qui se retourne, qui n'arrive pas à frapper dans un premier temps. Ballon récupéré par Jonas Martin, premier ballon touché par l'ancien René qui récupère ce ballon chaud, ballon important sur ce contre qui était mené tambour battant par les Canaries.
Oui, la coach, je ne sais pas si tu as remarqué l'intervention de Kenny Lala qui n'a pas réussi, qui n'a pas laissé Abline se retourner parce que le contrôle est bon et finalement il colle à l'attaquant, oui, et bon, il ne peut pas enchaîner.
Il est allé dans une autre zone que la sienne et c'était exactement vraiment très, très, très bien joué de sa part parce que ça aurait pu vraiment être le premier but de ce match.
Kadewa, oh, la frappe complètement dévissée alors qu'il est en très bonne position pour frapper. Ça a surpris tout le monde qu'il dévisse autant cette frappe. On est à la 29e minute, donc il va falloir faire du bruit ici du côté de Leblay en référence évidemment au département 29 comme le Finistère. 29e minute, les supporters qui applaudissent, mais là franchement c'était peut-être la plus belle occasion pour les Nantais parce qu'il n'était pas gêné Kadewa.
Oui, cette fois-ci il était en position parfaite et malheureusement pour les Nantais il a complètement dévissé, okay. C'est parti en haut de la tribune
et c'est sur ces applaudissements de la 29e minute qu'on remarque une dernière pause dans cette première période. C'est l'After Live sur RMC avec coach Courbis. On est de retour à Francis Leblay dans un instant pour les dernières minutes de ce premier acte entre Brest et Nantes. 0-0, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live,
Thibaut Giangrande
avec coach Courbis et la 32e journée de Ligue 1. Francis Leblay, Brest reçoit Nantes, Pierre-Yves Leroux, Edgar Gourlot.
Et pour le moment, Brest est tenu en échec sur sa pelouse, 0-0. Ils sont pas très nombreux à avoir réussi à venir prendre des points sur la pelouse de Leblay. Lille, Nice, Strasbourg, Toulouse et Rennes ont fait match nul. Les deux équipes seulement se sont imposées, Paris et Monaco. Pour le moment, Nantes fait une bonne opération. Les Brestois, c'est un petit peu moins bien, évidemment, dans la lutte pour rester dans les trois premières places, synonyme de Ligue des Champions. Direct, sans passer par le tour préliminaire avec la quatrième place. Brendan Chardonnay, avec difficulté, essaye de transmettre à Del Castillo et finalement, c'est avec l'aide de ce ballon repoussé par Palois que les Brestois vont pouvoir le récupérer. Écarté côté gauche avec, dans un premier temps, Loco, Satriano devant lui et on essaye de faire tourner et de trouver la faille dans cette équipe nantaise bien organisée. Toujours ce bloc nantais avec le pressing de Sissoko, c'est pas forcément évident, peut-être avec ses ballons en profondeur signé Del Castillo en direction de Satriano et ça sera un corner à venir pour Brest.
Et Nantes qui est un petit peu plus haut sur le terrain quand même par rapport au début de match, même si là il recule. Et pendant la pause, il y a eu une nouvelle occasion brestoise avec une frappe de Madi Camara qui est passée juste à côté de la lucarne gauche d'Alban Lafont.
Kenny Lala pour frapper ce corner, toujours côté gauche. Les Nantais qui sont 8 dans cette surface de réparation. Coco est juste à l'extérieur, Benny Traoré est resté à la pointe de l'attaque. Quelle va être la stratégie sur ce corner? Tout à l'heure on avait tenté pied gauche avec Del Castillo, là ça va être ouvert. Corner sortant avec le pied droit de Kenny Lala. Au deuxième poteau il y a du monde, mais il y a surtout du jaune et notamment Sissoko pour dégager le grand coup de botte de Sissoko en direction de Benny Traoré, mais le ballon est perdu parce qu'à la lutte Benny Traoré et Loco, et bien c'est Loco qui a obtenu ce ballon. Résultat, bonne position pour les Brestois dans cette surface de réparation, même si les Nantais sont tous là. Et Moutou Sami qui fait la chasse et qui empêche Mounier de se retourner pour frapper. Ballon qui va revenir côté gauche avec Del Castillo, le centre de Magnetti, la tête de Mounier, mais elle n'est pas assez puissante, elle est récupérée par Lafont. On cherche le crâne du spécialiste, oui. Esthète Steve Mounier.
Ah ben là on l'a vu, alors lui ce qu'il dit c'est sa force, c'est le timing, c'est d'être là au bon endroit. Cette fois-ci il a peut-être sauté un tout petit peu trop tôt et en tout cas il n'a pas réussi à mettre la puissance qu'il voulait, l'impact qu'il voulait sur cette tête.
En tout cas Roland, les Nantais ils font un bon match pour l'instant, ils sont très peu mis en danger finalement, pas de grosse occasion pour les Brestois. Le micro.
Compte tenu de la composition d'équipe de Nantes, on voit un petit peu le match qu'on s'attendait voir avec des Nantais qui ont le souci évidemment d'être solides. Ils savent qu'à défaut d'une victoire, un match nul, ça serait déjà pas mal pour récupérer un petit point et le rajouter à ce que les Nantais ont déjà. Et donc, je ne serais pas étonné que les Nantais puissent marquer à un certain moment, parce qu'ils ont le potentiel pour, et l'intention aussi.
Oui, c'est Kadewere peut-être qui aurait pu être le premier buteur de cette équipe nantaise, parce qu'il était en bonne position tout à l'heure. Mais il dévisse totalement sa frappe. 8 minutes encore à jouer dans cette première période. 0-0 toujours entre les deux équipes. Les Brestois en possession du ballon, comme souvent depuis le début de ce match, parce qu'on est rendu à 70-30 maintenant au niveau de la possession, alors qu'on était à 65-35 après un quart d'heure. Et nouveau corner. On était côté droit il y a quelques instants. On va voyager jusqu'au côté gauche cette fois. Est-ce que ça sera sortant? Est-ce que ça sera rentrant? Eh bien, ça sera rentrant, puisque Kenny Lala, qui était à frapper côté droit il y a quelques instants, va lui aussi se déplacer et voyager jusqu'au poteau opposé pour frapper ce corner dans quelques instants. Est-ce que c'est sur un coup de pied arrêté que la solution va venir pour les Brestois? Pourquoi pas, effectivement, Roland, parce que dans le jeu, c'est un petit peu plus compliqué de mettre en danger Alban Lafont. Donc la tête de Steve Mounier, pourquoi pas, mais il y aura certainement celle de Nicolas Palois également, pas très loin. Il est au marquage avec Brendan Chardonnay. Alban Lafont trop court, mais il arrive à toucher quand même ce ballon. C'était chaud, c'était dangereux. Lafont qui touche légèrement ce ballon pour le pousser au deuxième poteau, là où il n'y a pas de Brestois pour récupérer. Mais c'est pas terminé quand même avec Jonas Martin et Del Castillo. Mais le bloc nantais est bien réorganisé, ça va être plus compliqué cette fois.
On va revoir sur les images, mais j'ai l'impression que là il s'est complètement raté, hein, Lafont, sur cette intervention. Mais il essaye de la prendre du point, alors
il la touche quand même, non?
C'est ce qu'il était en train de.
Mais j'ai l'impression qu'il peut la garder.
Je ne sais pas si j'ai mal vu, mais je pense qu'il passe carrément complètement à travers.
Ah ouais. Alors il la touche légèrement et heureusement pour les Nantais.
Ouais, bon.
Je pense que c'est pas ce qu'il veut faire au départ.
Ouais,
je pense qu'il veut la chercher.
Ouais. Si tu les fleurs,
ouais, c'est pas suffisant. Ouais. Ils se sont fait peur, les Nantais, quand même, sur cette action. Alban Lafont qui prend le ballon. Nicolas Palois qui réclame quelque chose, qui échange avec l'arbitre de touche. Et finalement, ça sera un 6 mètres, un dégagement qui va être opéré par Alban Lafont. Je regarde à nouveau le banc brestois. J'ai l'impression que ça bouge. Ça bouge de nouveau. Alors, on sait qu'il y avait quelques inquiétudes autour de Pierre Lesmelou, donc on vous rappelle qu'il est sorti il y a quelques instants, au bout de 30 minutes, mais il y avait aussi quelques interrogations pour Lilian Brassier, donc on va quand même surveiller. Les remplaçants là sont revenus sur le banc, peut-être que c'est juste la fin de l'échauffement tout simplement, mais j'ai l'impression qu'il y a des consignes qui sont données.
Il y a un joueur qui va rentrer, alors on va voir qui c'est, mais en tout cas il y a un membre du staff qui est en train de parler avec un joueur. On va suivre ça dans quelques instants après cette action nantaise.
Et Ablin qui fait le ménage, il se retrouve dans la surface de réparation. Ablin, le petit lob, oh, ça passe juste à côté, le talon d'Ablin, c'était très bien joué tactiquement, mais derrière son petit lob externe avec le pied droit vient heurter le petit filet, même pas le poteau. Très bien joué de la part des Nantais qui se créent, ça y est, cette fois leur plus belle occasion et le changement à venir du côté brestois. Mais dans quelques instants
il choisit son pied droit qui est son meilleur pied, mais cette action démontre quand même le talent de ce joueur que je trouve vraiment très intéressant.
Et oui, et c'est peut-être aussi un des tournants de cette saison, c'est que Antoine Comboiré a décidé de lui faire confiance, de le mettre titulaire, alors que Jocelyn Gourvennec nous disait il est formidable, il est excellent à l'entraînement, mais en match il n'arrive pas à concrétiser. Antoine Comboiré lui a donné un petit peu plus confiance, et le changement du côté brestois, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les Bretons.
Nouveau coup dur pour les Brestois avec la sortie de Romain Del Castillo remplacé par Mathias Pereira. L'âge les Brestois perdent Lesmelou et Del Castillo.
Le nombre de kilomètres, excuse-moi de te couper, que tous ces joueurs ont fait pour atteindre cet objectif et faire cette saison extraordinaire, à trois journées de la fin, ça commence un petit peu à siffler.
Ouais. Surtout que c'est une équipe qui avait été justement très épargné par les blessures cette saison, et bon là ça leur tombe dessus un peu fort, parce qu'en plus avec Lesmelou et Del Castillo coach.
Attention, Ablin pied droit, Ablin au-dessus, l'occasion incroyable des Canaries. Ils vont pas y arriver à mettre ce but au Brestois, parce que là c'était passé première fois à gauche, cette fois deuxième fois à droite, mais là tu vas voir Roland, c'était son bon pied, c'est tout ouvert et ça passe au-dessus.
Le but complètement vide, il a dribblé le gardien, il a plus qu'à la pousser au fond quasiment, même s'il y a un beau retour de Brendan Chardonnay, mais là quel raté d'Ablin là.
Évidemment que je suis d'accord avec toi, mais dans son déplacement, dans son contrôle orienté pour éliminer l'organisation défensive de Brest, et après malheureusement il ne peut pas redresser le ballon, ça fait rien. C'est une action qui démontre que c'est un poison pour les défenses, ce joueur.
Ah, ils sont en train de finir très fort, les Nantais, là.
Hein. C'est le joueur en forme de Nantes, hein. 3 buts sur les 4 derniers matchs. Ouais. Attention, ils viennent de récupérer le ballon très haut, là, les Nantais.
Ouais, avec Benny Traoré pour Kadewere. Kadewere, il doit la remettre à Moutoussami. Il a mis un blind du pied gauche, encore au-dessus. C'est pas cadré. Le choix, à mon avis, c'était plutôt Moutoussami. Il fallait la remettre plus rapidement, mais le temps très fort des Canaries dans ces dernières minutes de la première période. 43e, toujours 0-0, mais trois occasions majeures pour les Canaries dans ces dernières minutes.
Il n'a pas de chance parce qu'elle lui saute juste avant qu'il frappe, si j'ai bien vu.
Ouais, elle est pas facile parce qu'effectivement il y a la petite taupe, hein, comme on dit, juste devant, et c'est pour ça aussi qu'elle s'envole dans les tribunes.
Ça, c'est une galère.
Bah, je pense même que c'est une grosse taupe.
Il y a pas de solution. On a tout essayé.
Ouais, je confirme. Compliqué. En tout cas, c'est une grosse fin de première période pour les Nantais, et c'est peut-être pas un hasard après les sorties de Del Castillo et Lasmelou, coach.
Bah, c'est sûr, d'autant plus que bon, Lasmelou, on va pas le dire chaque fois. C'est quand même un joueur à l'image de Brest qui fait une saison extraordinaire. Et faire les derniers matchs sans lui, c'est sûr que c'est un handicap. Mais bon, on saura prochainement si c'est grave ou pas. Mais c'est emmerdant, parce que si déjà il était incertain, qu'en plus il peut tenir que 30 minutes, je ne sais pas si en une semaine, il y aura une amélioration.
Vivement la mi-temps, hein, Pierre-Yves Edgar pour les Brestois.
Ouais, tout à fait, mais ils vont peut-être se créer quand même une dernière occasion avec Kenny Lala sur le côté droit, avec Pierre Alage rentré il y a quelques instants, le centre de Kenny Lala en retrait. Oh, pourquoi il a laissé ça, Sissoko passait, la frappe de Magnetti derrière, très surprenant, Sissoko qui aurait pu dégager cette balle, résultat, ça donne une opportunité, Edgar, intéressant.
Et oui, une nouvelle Magnetti qui aurait peut-être dû, là, avec cet angle, l'enrouler, parce que là c'était compliqué, il y avait une forêt de Nantais devant lui, et finalement ça file à un ou deux mètres à droite de la cage d'Alban Lafont, qui va pouvoir se dégager sur ce 6 mètres.
Les Nantais qui auraient pu rentrer à la pause avec un petit avantage quand on voit ces dernières occasions, mais on se dirige quand même plutôt vers le match nul pour l'instant à la pause, 0-0, à moins que Kadewere qui sert Traoré à l'entrée de la surface de réparation, et finalement Marco Bizot qui s'empare du ballon, et le superbe geste défensif signé Loco, le tacle qui permet aux Brestois encore une fois de garder leur cage inviolée, parce que c'était encore du solide.
Les Nantais peuvent regretter qu'on soit à la 45e minute.
Oui, parce qu'ils finissent vraiment très fort cette première
période.
Et
le nombre d'occasions sur les
3 minutes là,
sur les 7 dernières minutes, il y en a au moins 4.
Ouais, 4 très très sérieuses, et il y aura sûrement des grands regrets pour Antoine Comboiré. On le voit là avec les mains sur les hanches, qui doit se dire là, franchement, on aurait dû en mettre au moins une sur les 4, mais c'est aussi à l'image de Roland, de ces Canaries qui n'ont marqué que 29 buts depuis le début du championnat. Il n'y a que Clermont qui a fait pire, donc c'est une vraie difficulté. Ils ne sont même pas à un but de moyenne, même s'ils marquent un petit peu plus lors de ces dernières rencontres. 2 minutes de temps additionnel, on va voir si les Brestois arrive à ramener le danger un peu plus sur les buts d'Alban Laff.
Roland, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs s'ils arrivent à se procurer autant d'occasions, tout va bien dans le jeu et finalement ils n'arrivent pas à conclure?
Non, mais c'est surtout l'objectif, c'est d'atteindre, si tu veux, et de rester calme et d'avoir beaucoup de patience, parce que justement, si on se crée ces occasions-là, elle ne tombe pas comme ça toute seule, c'est qu'on on a réussi quand même à les construire. Donc là, on souffle, on récupère, mais en deuxième période, il n'y a aucune raison que les Nantais n'aient pas encore des occasions.
Et arrive, pourquoi pas, en mettre une au fond des filets d'Alban Lafondé dans le temps additionnel pour quelques secondes. À nouveau, dernière possession de balle peut-être pour les Brestois, avec côté gauche Loco, et qui reçoit ce ballon de Brassier. Monsieur Turpin qui siffle parce que Steve Mounier est au sol, et il y a eu une faute. Il y a eu une faute que je n'ai pas vue, pour tout vous dire, mais une faute de Jean-Charles Castelletto, alors qu'il n'y avait pas danger, mais je pense que c'était un peu sans ballon, assez surprenant.
On avait tous les yeux rivés sur le ballon qui était à 30 mètres, et Clément Turpin, lui, il avait les yeux partout. Voilà, c'est C'est l'un des deux arbitres français sélectionnés pour l'Euro. Il y a bien une raison. Exactement. Et là, ça va quand même faire une dernière opportunité intéressante pour le Stade Brestois avec ce coup franc. Allez, à 15 mètres, légèrement excentré à gauche de la surface. Il reste 30 secondes dans le temps additionnel de cette première période.
Mathias Pereira Lage pour frapper ce coup franc. Dernière occasion de cette première période pour aller à Brestois. Et c'est mal tiré, c'est dégagé sans problème par Tino Kadewere parce que ce ballon n'est pas du tout soulevé. Kenny Lala à la lutte avec Benny Traoré. On écarte le ballon pour Marcus Coco et c'est Traoré qui sera là à nouveau pour les Canaries. Quelques secondes encore à jouer à Leblé dans cette première période avec Palois, avec Schumert. C'est pas mal ça de la part de Schumert qui essaye de casser la ligne d'attaque brestoise avec cette passe en profondeur. Cette fois c'est Ablin qui va être servi, mais c'est trop compliqué et la défense brestoise est là et ça sera le coup de sifflet de monsieur Turpin. 0-0 à la pause, mais on a vu des occasions. Il va se passer des choses en deuxième.
Ben oui, donc là, si par exemple on nous pose la question et moi je vous la pose, bon évidemment c'est 0-0, c'est le football, c'est pas la boxe. Qui quand même mérite d'avoir un but de plus que l'autre?
Ah ben c'est Nantes, hein. Un petit biais. Ouais, je pense aussi.
C'est l'impression que vous avez un peu au stade aussi. Bon, légèrement, hein, très légèrement. Oui, c'est surtout la fin
après,
de Brest
a bien
période,
commencé quand même.
Voilà, c'est ça.
Sur la je croyais que Roland allait nous piéger en nous disant non. Vous avez vu la première période, qui va gagner ce match? Là, j'ai envie de dire Brest parce que c'est comme ça que ça tourne toute la saison pour les Brestois.
Oui, c'est vrai que les Nantais, on peut penser qu'ils regrettent toutes ces occasions. Mais bon, on va voir aussi. Del Castillo, Desmelou en moins, c'est quand même pas complètement la très bonne équipe de Brest que nous avons l'habitude de voir.
Et n'oublions pas que Brest a utilisé deux séances de changement, hein, et donc ils vont pouvoir faire une seule séance de changement en deuxième période. On va voir si ça peut jouer en seconde période.
Edgar Grolot et Pierre-Yves Leroux, on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour cette deuxième période à suspense entre le Stade Brestois et le FC Nantes. Dans un instant, on vous attend d'ailleurs, hein, 32-16, supporters nantais, brestois, si vous voulez venir analyser ce premier acte avec Coach Courbis dans l'Afterlife. Le 32-16, vous nous appelez, Adrien est là au standard ce soir et vous êtes en direct sur RMC. On fera un point, je vous rappellerai les résultats du jour, un point classement parce que ça devient très important à deux journées et demie de la fin, un point sur les matchs à l'étranger également. Et puis tiens, je vous donnerai une déclaration de Laszlo Bologny, le coach messin, mais qui a perdu 3 buts à 2 en roue libre sur l'arbitrage. On écoute ça dans un instant et puis dans 10 minutes pile à la seconde près, le coup d'envoi des qualifs du Grand Prix de Miami, ce sera avec Jean-Luc Roy et Verstappen partira évidemment favori. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'Afterlife.
Thibaut Giangrande.
Il est 21h52, nous sommes samedi le 4 mai 2024 et vous avez choisi RMC, merci beaucoup. Soirée foot jusqu'à minuit avec Coach Courbis, bien évidemment c'est la mi-temps pour le match du soir en Ligue 1, la 32e journée, 0-0 entre Brest et Nantes, match accroché dans ce combat de boxe, comme le disait Roland, peut-être avantage aux Nantais à la pause. 32-16, si vous voulez réagir, un week-end de Ligue 1 particulier, 4 matchs aujourd'hui, 0 demain, on sera le 5 mai, pas de match en France en hommage aux victimes de Furiani. Le dernier match du week-end en quelque sorte aura lieu lundi soir, Lille-Lyon plus bien évidemment les deux matchs de nos clubs européens, Paris et Marseille contre Nice et Reims qui auront lieu dans un peu plus de 10 jours. Je vous rappelle les résultats du jour et un point classement là ce soir, la victoire du Havre contre Strasbourg 3-1, celle de Monaco contre Clermont 4-1 et celle de Rennes qui a retourné Metz 3-2 et qui a fait craquer en quelque sorte Laszlo Bologny. Il est sorti de conférence de presse très énervé. Je vous livre quelques déclarations. Il dit, je cite, il y a un moment clé quand il y a un jugement vraiment mauvais, c'est le penalty, donc celui qui a permis à Rennes d'égaliser, lequel change pratiquement totalement le déroulement du match. Et cerise sur le gâteau, enfin, ça dépend pour qui est le gâteau, il y a l'expulsion de Miko Tadze. Je ne sais pas s'il faut hurler, pleurer, rigoler. Je ne peux pas commenter, c'est incommentable. No comment. Voilà ce que dit Laszlo Bologny. En fait, il est parti sur 2 minutes, hein, sur l'arbitrage, mais très énervé. C'est vrai que Roland, même pendant le direct, ce penalty, tu l'as trouvé sévère. Mais expulsion également, en fait.
Mais oui, si tu te mets à la place de Bologny, donc le penalty est sévère. C'est quand même un penalty qui arrive à un moment décisif. C'est 2-1 pour Metz. Alors, évidemment, s'il y a vraiment penalty, il y a penalty. Mais on peut penser que ça peut se siffler, la preuve. Mais ça peut aussi ne pas se siffler. Ouais. Et quand, en plus de ça, si tu termines 2-2, bon, allez, et qu'il n'y a pas l'expulsion de Miko Tadze, je pense que Bologna aurait dit bon, mais c'est dommage, on avait les trois points, on en a pris qu'un et tout. Mais là, tu en prends zéro et tu perds ton meilleur joueur. Si derrière ça, tu n'es pas mécontent, ben c'est que vraiment tu n'es pas passionné et qu'il vaut mieux que tu prennes la retraite.
Mikotadze, qui sera donc suspendu au moins pour le match contre Strasbourg la semaine prochaine. Conséquence des résultats du jour au classement. Clermont toujours dernier, 25 points. Lorient, 17e, 26 points. Metz, 16e, 29 points. Et Nantes, grâce à ce point, remonte provisoirement à la 14e place avec 33 points, donc provisoirement 4 points de plus que Metz. Le Havre est 15e avec 32 unités dans le haut du classement. Monaco, grâce à cette victoire, assure une place dans le top 4, donc en quasi-Ligue des Champions. Pour l'AS Monaco, Brest est 3e avec 57 points. Ça en fait virtuellement 6 de plus que les Niçois. 21h55, l'After Live, un coup d'œil sur ce qui se passe à l'étranger également. C'est la mi-temps en Espagne. L'Atlético de Madrid mène 1-0 contre Mallorca, une journée qui a vu le Real Madrid être officiellement sacré champion.
Ah, après, c'est une surprise ça.
Incroyable.
Oh, je suis tombé
de ma chaise.
Qu'est-ce que tu nous apprends hein.
Victoire 3-0 contre Cadix. Et en fait, la surprise, c'est la défaite dans les heures qui ont suivi de Barcelone, battu 4-2 à Gérone. C'est cette défaite qui donne le
Gérone,
Real.
Notre petit Brest espagnol.
Et qui va aller jusqu'au bout, puisque Gérone repasse devant le Barça grâce à cette victoire. Donc derrière le Real, un point d'avance pour Gérone sur le Barça. En Angleterre, la course au titre statu quo puisqu'Arsenal a battu Bournemouth 3-0 et que City a écrasé Wolverhampton 5-1. Et puis en Italie, 50 minutes de jeu, Sassuolo mène face à l'Inter 1-0. Vous signalez également, pour être complet, qu'en Bundesliga, le Borussia Dortmund, adversaire du PSG dans 3 jours déjà en demi-finale retour de Ligue des Champions, a battu Augsbourg 5-1 avec une équipe B. Hein. Il y avait un seul titulaire, ouais, c'était le gardien.
Le gardien. Ouais. 10 changements des 10 joueurs de champ. C'est quand même assez exceptionnel avec une équipe d'Augsbourg qui, en plus de ça, avait besoin de points pour la sixième place et ils prennent 5 buts. Ouais. Sincèrement, il y a des choses, c'est pas la première fois, mais qui sont complètement incompréhensibles.
Et vous dire que le Bayern a encore perdu. Voilà, défaite 3-1 à Stuttgart.
Ça, par contre, c'était prévu à Stuttgart. Eux aussi, mais ce que je crois, c'est, je ne veux pas faire de jeu de mots, c'est qu'ils ont perdu, oui, mais je crois qu'ils ont perdu un voire deux joueurs sur blessure encore, mais je n'ai pas de précision, tu essaieras de voir.
C'est la mi-temps, donc à Le Blé 0-0, un bon 0-0 entre le Stade Brestois et le FC Nantes au coup de sifflet final de ce match. Ce sera l'after sur RMC avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16 et sur YouTube. Hein. D'ailleurs, je vous salue à ceux qui sont en direct sur la chaîne de l'after. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot. Merci d'être là. Tout de suite, on parie sur ce Brest-Nantes.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec notre expert en paris sportif, Yoann Guillet. Ça dit quoi à la pause? J'imagine que la cote des Nantais a baissé.
Exactement, elle est passée à 4,50, elle reste énorme, hein. Le nul est à 2,25, maintenant on double la mise pour un succès brestois, mais messieurs, sans me mouiller, sans donner de scénario ou de vainqueur, je vais vous proposer tout simplement les deux équipes qui marquent. C'est coté à 3,65, ça me plaît beaucoup comme cote.
Roland, qu'est-ce que tu jouerais dans cette deuxième période?
Je te suis, mais je vais rajouter un autre ticket avec deux scores précis, le 1 partout et le 2-1 pour Nantes.
Le 1 partout ou 2-1 pour Nantes, c'est 5,60.
Merci beaucoup, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Dans un instant, le coup d'envoi de cette deuxième période. On va suivre également de la Formule 1 ce soir avec la qualification du Grand Prix de Miami. Mais on a Anthony qui est avec nous au 32-16, supporter nantais. Salut Anthony.
Ouais, bonsoir à l'équipe, bonsoir RMC.
Salut Anthony, bienvenue dans l'After Live. Est-ce que finalement il n'y a pas un peu de regret d'être à 0-0 à Brest là pour l'instant?
Franchement, on a du regret. Après, maintenant, côté Nanterre, on n'a pas non plus besoin de s'enflammer de trop non plus. Mais voilà, la semaine dernière, je suis passé avec vous et comme j'ai dit, il nous manquait peut-être 2-3 points. Je pense que ce soir, on a peut-être les moyens de prendre les 3 points. Et je remercie Roland pour son prono qui voit peut-être une victoire nantaise. Donc voilà, il reste encore 45 minutes, donc on espère en tout cas prendre les 3 points ce soir.
Mais si tu veux, si je pense à une éventuelle victoire de Nantes, c'est pas parce que je suis un génie, hein, mais je vois Brest avec deux joueurs en moins qui sont pour moi deux des très bons joueurs de Brest. Ces Nantais avec ce potentiel offensif me donnent l'impression de pouvoir marquer à tout moment. Donc c'est pour ça que mon pronostic, c'est le 1 partout ou le 2-1. Mais pour Nantes, maintenant, avec ce qu'on a pu voir à Rennes dernièrement, quand il y a cette équipe de presse qui est 4-2, qui revient, que Rennes revient 4-4 et qui se débrouille quand même à la 95e minute de gagner 5-4, on s'amuse à pronostiquer, mais c'est tout simplement très difficile.
Après, est-ce qu'on peut peut-être se dire que les Brestois, du fait que de leur côté, ils se voient, enfin voilà, que l'année prochaine, ils ont assuré leur qualification européenne, est-ce que peut-être ils ont peut-être relâché un peu leur jeu, je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, pour Nantes, c'est crucial. Il faut ces 3 points pour se sauver. Sinon, l'année prochaine, on risque d'être assez facilement en Ligue 2, entre guillemets, à voir les prochains matchs.
Ouais, même si ce soir, le résultat de la défaite de finale de Metz est très importante pour les Nantais. Oui. Merci Anthony, bonne deuxième période à toi.
Merci à vous les gars.
À bientôt, bye bye. Salut. Il est 22h pétante, vous êtes sur RMC. Votre soirée est loin d'être terminée. Dans un instant, le début de la deuxième période de ce Brest-Nantes, plus la qualification du Grand Prix de Miami avec Jean-Luc Roy. Tout ça, c'est ici sur RMC, sans zapper.
RMC, l'Afterlife.